En fait, nous nous trouvons devant un double phénomène qui est assez nouveau, qui a suscité une sorte de polémique contre le monothéisme en général. Alors, il y a deux renouvellements. Un renouvellement de type, je dirais, plutôt populaire et quelquefois de sous-culture, il faut bien le dire, médiatique. Et le monothéisme s'est trouvé entraîné dans ce mouvement très émotif. Et puis d'autre part, un phénomène, lui, savant, où le monothéisme a paru comme peut-être une idée un peu superficielle, de classement un peu extérieur, que le monothéisme en soi serait porteur de violence entre les peuples, de guerre donc, de religion. Pourquoi ? Parce que le monothéisme ne laisserait pas place à la variété des points de vue, etc., et qu'il serait contraignant par nature, par origine, qu'un seul Dieu risque de ramener à sa puissance les consciences de la multitude. On va associer dans des formules qui ne sont pas vraies du point de vue théologique, par exemple une expression comme les trois monothéismes. Parce qu'il y a bien plus que trois monothéismes en fait.
Et justement, quand on aborde la question du lien présumé entre monothéisme et violence, il faut bien faire la distinction entre les différents monothéismes. Pour les chrétiens, Jésus-Christ est la manifestation de l'amour de Dieu, donc c'est exactement le contraire de la violence.
Ça aurait été une facilité indigne, et d'abord indigne de la vérité intérieure au christianisme, de vouloir nous tirer de la polémique, d'une part en disant « nous avons le bon monothéisme » parce que notre monothéisme est trinitaire et la Trinité sauve l'idée du Dieu unique. Ceci n'est pas tout à fait vrai. C'est en tant que Dieu unique, si vous voulez, que Dieu, dans ses attributs, la justice, la bonté, doit être absolument exonéré de l'accusation d'être porteur de violence. Quand on dit parfois dans certaines accommodations liturgiques « Dieu tout-puissant », et alors on ajoute « Dieu tout-puissant d'amour » par peur d'accuser la toute-puissance, mais c'est un point de vue très anthropomorphique, car Dieu est tout-puissant, mais il n'est pas soupçonnable de la moindre injustice, sa toute-puissance est toujours bonne.
Et pourtant, il faut bien reconnaître que bien des guerres ont été menées au nom du Dieu unique, que bien des violences sont toujours commises au nom de Dieu.
Alors, bien sûr, en disant cela, il fallait s'expliquer avec ce que nous avons appelé dans l'introduction des pages difficiles de l'Ancien Testament sur une présentation d'un Dieu de colère, d'un Dieu de vindicte, pour ne pas dire de vengeance, c'est-à-dire d'un Dieu qui rétablit la justice avec des moyens un peu brutaux, etc. Vous voyez, là, pour le coup, pas d'apologétique facile. Nous avons essayé d'argumenter, de montrer en rapport avec quelle préparation de l'humanité, elle-même saisie de violence, de guerre, de péché, cette diction, on pourrait dire cette expression narrative d'un Dieu non seulement fort, mais parfois violent, nous devons nous expliquer. Dans la suite des actes de repentance que le pape Jean-Paul II, au jubilé, avait vraiment publiés, nous devions dire à quel point l'Église s'est en réalité séparée de la révélation d'un Dieu de douceur, de pardon, d'un Dieu qui respecte les consciences, qui ne les contraint jamais, et que ceci est une contradiction réelle, un péché des gens d'Église, un péché avec lequel nous ne devons avoir aucune espèce de complicité. Ce témoignage argumenté commence par une autocritique en remarquant comment l'Église a pu être infidèle au Dieu de douceur qu'elle était appelée à prêcher. Il est évident que nous laissons à ceux qui sont interrogés, voire attaqués par la même polémique, je veux dire la religion juive, Israël et l'islam, nous les laissons répondre à cette polémique qui, de fait, aujourd'hui, circule dans le monde entier. Nous laissons là encore libres les historiens de repérer les contradictions de telle religion avec son propre discours. Les historiens ne manquent pas de le faire pour l'Église du Christ, et ils peuvent le faire pour d'autres religions.